Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Au milieu des années 1960, l'écrivain Roger Caillois est presque au sommet de sa renommée littéraire. Ses théories sur le mythe, le rêve ou le mimétisme animal sont lues et diffusées dans les cercles les plus divers. Il est reconnu aussi pour ses talents d'éditeur et de traducteur, notamment du maître argentin du fantastique Jorge Luis Borges. Pourtant, le verbe et la prose de Caillois peuvent demeurer hermétiques. De fait, par ses choix de travaux très éclectiques, l'écrivain lui-même brouille les pistes pour quiconque chercherait une cohérence dans son œuvre. L'émission que vous allez entendre dans un instant, Morceaux choisis par Jean Paget, donne justement quelques clés de compréhension des travaux de Roger Caillois. L'écrivain y évoque lui-même quelques-uns des fils directeurs de ses œuvres, dont deux de ses ouvrages les plus fameux, L'incertitude qui vient des rêves et Ponce Pilate. Ce dernier ouvrage est d'ailleurs un cas à part dans l'œuvre de Roger Caillois. C'est un récit romancé ou un roman philosophique. L'écrivain se livrait très peu à ce genre d'exercice auquel il préférait l'essai. Voici donc Morceaux choisis, un tour d'horizon de quelques-uns des textes les plus fameux de Roger Caillois. C'est une émission de Jean Paget en 1964.
La radiodiffusion française vous présente Morceaux choisis. Aujourd'hui, Roger Caillois, page choisie par l'auteur et présentée par Jean Paget, avec Hergy Chauffard, René Farabet et Claude Martin. Réalisation Georges Gravier.
Roger Caillois, vous avez consacré votre œuvre à la sociologie, également à l'étude de l'art et à celle du langage. Pouvez-vous nous parler du choix des textes que vous avez fait pour cette émission et qui est exclusif de certains aspects de votre œuvre ?
Bien, je crois qu'il y a dans mon œuvre trois courants principaux. Le courant purement sociologique, celui par exemple de l'homme et le sacré, du mythe et l'homme, ou des jeux et les hommes, et tout dernièrement de Bellone ou la pente de la guerre. Il y a aussi une œuvre, si vous voulez, de théoricien de la littérature et de l'art, ce que j'ai exprimé dans des livres comme Babel, art poétique ou esthétique généralisée. Et puis il y a un courant plus intime, celui du rocher de Sisyphe, ou de l'incertitude qui vient des rêves, où je m'enhardis à parler de problèmes plus personnels. C'est presque exclusivement, à l'exception d'un texte de l'art poétique, c'est presque exclusivement dans cette dernière sorte d'œuvre, plus intime, comme je l'ai dit, que j'ai choisi les textes que vous avez bien voulu retenir.
Roger Caillois, les articles de l'art poétique dont nous allons entendre la lecture constituent en quelque sorte votre doctrine en la matière. Pouvez-vous nous dire en quoi l'étude des caractères permanents de la poésie à travers les époques, les cultures, les styles, vous ont aidé à préciser cette doctrine ?
Le mot doctrine est peut-être un peu excessif, mais vous avez raison de souligner que c'est en constituant le trésor de la poésie universelle, c'est-à-dire en recherchant les diverses manifestations de la poésie à toutes les époques et à toutes les latitudes, les genres les plus élémentaires comme les plus savants, que j'ai été amené à essayer de constituer une sorte de credo poétique. Ce credo est négatif d'ailleurs, en ce sens que j'élimine ou je donne des conseils sur ce qu'il faut ne pas faire et non pas sur ce qu'il faut faire. Je n'aurais pas osé, je n'en aurais pas eu l'audace, mais en confrontant les mille et une poétiques que j'ai eu l'occasion d'observer, j'ai pensé tout de même qu'il y avait un noyau commun que l'on pouvait définir et circonscrire. C'est le but des 23 articles de ce credo poétique que vous appelez doctrine, mais qui est loin d'en être une, puisqu'en fait, je tâche d'éliminer ce qui n'est pas des constantes dans la poésie universelle.
Comme l'âme égyptienne énumère devant Osiris les fautes qu'elle n'a pas commises, afin de prouver qu'elle mérite la béatitude éternelle, le poète se disculpe devant un juge idéal. Je n'ai pas abusé de la réputation attachée à mon art pour éblouir les humbles et les crédules. Je ne me suis pas servi de la cadence, de la rime, des mots inaccoutumés et de la musique des syllabes, pour donner le change à l'esprit sur la valeur de mon discours. Je n'ai pas augmenté à plaisir l'obscurité de mes vers, mais travaillant dans l'obscur, j'ai cherché la clarté. Je n'ai pas déconcerté en vain, je ne me suis pas complu à parler d'émeutes, de monstres et de prodiges, de toutes choses flamboyantes et aberrantes qui flattent l'oisif et l'égoïste. Les songes de l'homme, ses délires, ont trouvé place dans mes poèmes, mais pour y recevoir un nom, une forme, un sens. J'ai ordonné leur confusion, j'ai arrêté leur fuite, ils sont fixés dans mes mots. J'ai défini les sentiments qu'on éprouve en aveugle et qu'on ne sait pas identifier. Grâce à mes vers, chacun maintenant les reconnaît et les salue. Il se sent avec eux dans une intimité nouvelle. Il est plus à l'aise dans son âme et il tient bien ce qui toujours lui échappait. Je n'ai imité personne. Je n'ai pas acquiescé par faiblesse au désir du grand nombre ou des puissants. J'ai tiré de moi ma règle, mon principe et mon goût, mais sans outrer leurs différences et sans me séparer arbitrairement des autres poètes ou des autres hommes. J'ai pensé qu'il était de meilleure façon et de moins courte de montrer ma sincérité ou mon indépendance. Je ne me suis pas proposé d'être inimitable. J'ai dissimulé ma maîtrise. J'ai caché mes audaces. De bon gré, je me suis plié aux disciplines communément acceptées. Parfois, j'en ai inventé de nouvelles à mon usage. Si personne ne peut m'imiter, c'est seulement ma récompense. Je n'ai pas eu le souci de prouver constamment que j'étais poète. J'ai étudié mon métier avec patience et modestie. Je me suis abstenu des prouesses et des subterfuges. Je n'ai pas forcé les images. Je n'ai jamais essayé de faire croire que j'étais mage ou prophète. Je n'ai pas simulé l'enthousiasme, la démence et la possession par les esprits supérieurs ou inférieurs. J'ai reconnu sans amertume, quand je les éprouvais, que mes transports étaient tout humains et que des règles humaines devaient les gouverner. Souvent, j'ai travaillé la nuit entière, sans qu'à l'aube, il me soit resté un seul mot. D'autres fois, en temps de loisir, de paresse et de distraction, mes plus beaux vers sont nés sans mon aveu. Pourtant, je n'ai pas maudit le travail et la peine. Je me suis souvenu qu'il était pour l'eau, entre la pluie et la source, un pénible et douteux cheminement. Je ne me suis pas présenté comme la source, produisant par miracle une eau pure, mais comme la terre et l'argile. Je filtrais comme l'une, je rassemblais comme l'autre. Les vers jaillissaient à la fin. Mes vers ne rappellent pas à chaque mot qu'ils sont des vers. Ils ne réclament pas avec insistance qu'on les écoute avec la piété qu'on doit aux oracles. Ils n'exigent aucune glose. Ils ne contiennent ni énigmes, ni piège. Leur beauté demeure quand on perce leurs secrets. Je n'ai pas privé volontairement mes vers de la simplicité, de la transparence et de la précision de la prose, dans la pensée qu'ils auraient plus de prix. J'ai souhaité d'enfermer dans une forme inaltérable un contenu inépuisable. Il arrive ainsi que mes vers ne surprennent qu'à la longue. Rien ne semble d'abord les distinguer du langage ordinaire, puis l'âme s'émerveille que le mot strict, que la syllabe brève et pure, lui fasse entendre un discours infini. Je n'ai pas voulu proposer à l'âme des mets luxueux et étranges venus des antipodes ou des abîmes. Je l'ai nourri d'aliments de première nécessité, qui ne sont pas rares, mais indispensables. Dans le roi, j'ai vu la majesté. dans le prêtre, le sacerdoce. Je n'ai pas attiré l'attention sur la ciselure du sceptre ou sur l'ornement de la sandale. Je n'ai pas pris les choses par leur petit côté. J'ai observé le même respect dans l'atelier de l'artisan. J'ai loué son labeur et son ouvrage. Je n'ai pas ramassé le copeau pour en vanter la courbe, la couleur et la finesse. Il n'est permis à personne, pas même au poète, d'inverser de telles préséances. J'ai essayé d'avoir l'imagination juste. Je n'ai pas inventé à vide. Je n'ai pas recouru au hasard ou au filtre. Je n'ai dédaigné ni la raison ni l'expérience. Je n'ai pas changé par caprice le sens des mots. Je laisse pourtant les mots plus riches que je ne les ai trouvés. J'ai accru leur pouvoir par des rencontres qui restent dans le souvenir. J'ai été téméraire, sans me glorifier de ma hardiesse ni la recommander comme un principe. Quand mes imprudences furent heureuses, je n'en ai pas conçu de fierté. Encore moins ai-je compté sur les présents du sort, les provoquant sans mesure pour remédier à la faiblesse de mon imagination ou à la sécheresse de mon cœur. Mais je ne les ai pas non plus refusés par orgueil, afin de me réjouir en secret de devoir tout à moi-même. Je n'ai pas prétendu exprimer l'inexprimable, j'ai seulement tenté de communiquer par mes vers ce qui ne se laisse pas si bien transmettre, ni si efficacement dans un autre langage. Je n'ai pas prétendu divulguer l'inconnaissable. J'ai révélé la science la plus répandue, ce qu'il n'est pas possible de ne pas savoir, toute chose simple que chacun connaît depuis qu'il respire et qu'il n'oubliera qu'en mourant. Mais, la rencontrant dans mes vers, il croit recevoir la confidence d'un secret important qu'il était depuis toujours malheureux d'ignorer. J'ai voulu avoir le cœur pur. Je n'ai scandalisé personne, sauf ceux que le scandale seul s'est éveillé ou qui se scandalisent avec ostentation quand on découvre devant eux le mal, la honte ou la nudité. Ceux qui connaissent mes vers les récitent quand ils souffrent, et ils en sont apaisés. Car ils pressentent alors que leur douleur passera, et qu'ils la chériront un jour. Ceux qui connaissent mes vers les récitent aussi dans leur allégresse, et leur bonheur est double, car il acquiert une certitude qui, pour un moment, l'affranchit de la crainte, une couleur d'éternité dont il s'illumine. À toute joie, j'ai donné sa gloire, à toute vérité son évidence, à toute tristesse sa fécondité. J'ai choisi cette voie librement. Je ne me plaindrai pas d'avoir échoué. Une autre réussite ne m'eût pas satisfait.
Roger Caillois, Le Rocher de Sisyphe, constitue un essai sur la notion de civilisation. Dans l'avertissement à ce livre, vous écrivez « La civilisation n'est rien autre qu'une conquête continue de l'homme sur lui-même. Quelles sont les forces qui menacent constamment cette conquête ? Contre quoi l'homme doit lutter constamment ? »
Eh bien, l'homme doit lutter constamment contre la tentation de retourner à la barbarie, c'est-à-dire de se laisser aller à ceux de ses instincts qu'il ne contrôle pas. J'ai écrit dans Le Rocher de Sisyphe, la partie qui va être lue, quand je suis allé sur les rivages déserts de la Patagonie, où la vie de l'homme est très difficile et où la civilisation est encore à naître, où il faut tout constituer. Eh bien, s'il n'y a pas un sentiment très vif, par exemple, de la solidarité et des obligations morales de chacun, Si l'on ne se contrôle pas, si l'on ne fait pas très attention à observer une très grande loyauté, eh bien il est certain que l'homme est obligé de retourner, de retomber immédiatement dans un état presque animal où il ne cherche qu'à subsister sans essayer d'institutionnaliser, pour ainsi dire, les relations qui formeront un jour ce qu'il est commun d'appeler civilisation.
D'autre part, ce livre a été écrit pendant la guerre, je crois, en Amérique du Sud.
Ce livre a été écrit pendant la guerre en Amérique du Sud et il est fort probable, en effet, que les événements ont pesé particulièrement sur sa rédaction.
Le quatrième jour, après avoir quitté le dernier comptoir où l'on embarque ses dons d'un autre monde, le navire se trouve devant une porte gigantesque. De hautes falaises lumineuses barrent sa route et ne laissent devant lui qu'un étroit goulot que rend obscur leur blancheur éclatante. Les murailles qu'elles élèvent semblent enclore un paradis mystérieux. Mais, s'écartant avec hâte, elles s'effacent dans le lointain, se confondent avec l'horizon et se rapprochent enfin, derrière le bateau, comme pour l'enfermer dans un lac immense et sans issue. Seule, leur face d'ombre est bientôt visible et le soleil qui se lève sur la pleine mer ne parvient sur les eaux encore ténébreuses de la baie que par la fente mince et comme fragile qui en constitue l'unique accès. On distingue sur la rive qui s'approche les habitations les plus rudimentaires que puisse bâtir l'homme civilisé. Un camp volant eût semblé contenir une vie mieux installée dans ses mœurs, plus sûre de ses lois et de sa permanence. Ces maisons de tôle ondulée, correctement rangées en rues perpendiculaires, paraissent les plus vides de souvenirs et d'intentions qu'on puisse voir. Elles obéissent à une disposition uniforme qui fait contraste avec le plan toujours personnel des villages qui, en de plus anciennes contrées, étoilés autour d'une église ou alignés le long d'une route, dénoncent une géographie toute humaine et toute façonnée par le site. Ceux qu'abritent ces parois n'ont pas pensé à faire passer en elles quelque chose de leur goût. Aucun n'a posé sur ces niches et sur ces hangars la marque d'une âme singulière. Il eût suffi pourtant de la moindre recherche. Il n'eût fallu qu'une fleur derrière un rideau, ou qu'un rideau derrière une vitre. Il ne s'agit pas ici de pauvreté, mais d'absence. Il manque à de telles constructions ce que possède la tente du nomade et jusqu'au gîte de la bête, d'être formé à l'image de l'être particulier qui s'y loge et d'en manifester un peu les soucis et les fêtes. Le même abandon règne sur la plage. On y rencontre des cadavres de moutons que permettent de reconnaître quelques flocons de laine tremblant sur le squelette. Plus loin, on distingue les restes d'un phoque dont la fourrure sombre a mieux résisté à l'intempérie. Elle est crevée seulement par les puissantes palettes des nageoires et on voit les doigts parallèles qui les terminent, encore serrés comme pour chasser l'eau. Ou c'est une carcasse d'oiseau, plus qu'à demi enfoncée dans le sable humide et d'où le vent arrache les dernières plumes. On dirait que la faune entière de la création a délégué là des représentants pour y mourir. Une carapace d'oursin recouvre un crâne de passereau. Les cornes d'un bœuf s'appuient contre une vertèbre de baleine. De toute taille et de toute espèce, venus les uns de la plaine, les autres sortis des vagues, les troisièmes descendus des airs, des animaux innombrables se sont ici rejoints pour expirer dans une première et fatale familiarité. Le destin qui les a fait vivre dans des éléments contraires et qui les a munis de pouvoirs si divers se plaît à les réunir à l'heure de leur trépas. Un rendez-vous tardif rend fraternellement au néant les êtres les plus dissemblables. Des coquilles, des ailes, des cartilages manifestent pour un instant encore leurs différences vaines. La vie pour laquelle étaient faites ces structures merveilleuses les a quittées. La chair qu'elle soutenait et enfermait disparaît vite dans un sol qui s'effondre tout. Et les plus durs vestiges, broyés doucement par l'inutile énergie d'un océan, sont transformés à leur tour en une poussière indistincte. Ils suivent les plumes et les écailles qui les ont recouverts. Chacune était un chef-d'œuvre surhumain de matière et de couleur. Ils rejoignent la molle substance qui a pourri d'abord, et qu'on avait cru plus chaude et plus vivante, quand elle n'était que plus périssable. jusqu'aux pierres s'usent ici et se trouvent impuissantes à conserver leur forme et leur dureté. Il ne leur servira pas toujours de ne pas respirer. Cette plage est implacable pour la matière elle-même. Elle proclame avec éloquence une loi de destruction universelle et terrible. Les rumeurs de la guerre, les hécatombes et les incendies ne sont plus soudain un scandale et apparaissent plutôt comme une hâte que rien ne rend nécessaire. Comme l'affirmèrent de tout temps ceux que tiennent le goût et la religion de la guerre, tant de massacres affreux semblent bien conformes à l'ordre du monde. On y croirait une sorte de puérile impatience, une étrange rage de bousculer le temps et de devancer l'heure. Le tranquille charnier qui s'étend ici leur donne l'air d'une fièvre de la nature qui, ne démentant pas son ordonnance secrète, précipite seulement les battements de son cœur et rend tout en elle violente et tumultueux. Ainsi, l'horreur des champs de bataille se trouvait confirmée par une étendue calme, où chaque élément concourait à faire lentement retourner aux plus simples espèces la multitude des architectures délicates qu'une énergie divine habita. Sans haine, le soleil et le sel dissolvent leurs débris. Cet astre et ces cristaux, où l'on découvre volontiers la source et le signe de la vie, on les surprend occupés à en effacer jusqu'aux traces. Un cadavre manque à l'ossuaire, celui de l'homme, qui recueille les restes de ses compagnons et qui s'applique à conserver à leur dépouille sa forme particulière. Il défend sa propre ressemblance contre les carnassiers, le ressac et le vent. Il veille en vain sur une intégrité que toute attaque et désagrège. Quel prodige que ce soin! Si l'homme pense qu'il ne subsiste rien de son être après la mort, quel scrupule le fait enfouir ou embaumer une défroque hors d'usage? S'il imagine qu'on ne sait quoi d'immatériel prolonge son existence dans quelque au-delà, raison de plus pour qu'il dédaigne l'enveloppe importune qui emprisonnait l'étincelle. D'où vient donc cette mystérieuse révérence que porte presque également le doute et la piété à une masse de chair vouée certainement à la dispersion ou à la pourriture, et qui doit bien contenir, comme les autres cadavres, quelques restes dont l'industrie puisse profiter si elle sait s'en emparer à temps? Mais ni l'attente d'un autre monde, ni la certitude du néant, ne consentent à livrer une substance inerte aux artisans qui tireraient d'elle des principes utiles. L'homme, qui n'aime rien laisser perdre, fait exception pour les corps de ses semblables. Il lui paraît encore plus sacrilège de s'en servir que de les abandonner. Aussi, les gardant de toute atteinte étrangère, il les dépose dans un espace clos où rien ne doit troubler le progrès de leur solennelle et propre destruction. Il ménage avec sollicitude un asile net à leur coulée dégoûtante, comme s'il voulait empêcher le mélange de cette matière et de cette autre moins parente avec laquelle inévitablement il lui faudra se confondre. C'est pourquoi les traces de l'homme sont seules absentes du macabre musée d'eau, de cuir et de duvet. Les frustes habitants de la côte ont suivi la loi de leur espèce, et, avant d'élever pour eux-mêmes de plus stables bâtisses que les maisons faites des boîtes de conserve qu'apportent les bateaux pour leur faim, ils ont délimité à l'écart l'enclos de leurs morts. À l'abri d'un mur, ils ont fait pousser des arbres qui donnent inutilement à des pierres l'ombre dont les vivants restent privés. Ils n'ont pas pris tant de peine pour leur propre demeure. L'instant que l'homme doit passer sur cette terre leur semble sans doute trop bref pour que la patiente croissance d'un arbre paraisse à sa proportion. La fraîcheur qu'il dispensera plus tard, ses éphémères n'ont pas le temps de l'attendre. Aussi la réserve-t-il à leurs dépouilles, qui en jouiront durant une saison moins fugitive. Ils ornent d'un lent feuillage le lieu de leur dernier et durable loisir, comme s'ils voulaient le rendre meilleur et plus séduisant que le repos qu'ils s'accordent, parfois, au crépuscule, après le travail de tout un jour, dans la prairie sans ombre. Ceux qui sont à naître hériteront pourtant de la plantation vouée aux morts, qui fonde dans la solitude naturelle le début d'un paysage humain. Les migrants qui s'établissent là ne purent rien emporter de tout ce qu'ils quittent. Il s'y rend seul et nu. Il comprend qu'il doit ici recommencer l'histoire de l'homme. Il n'acclimatera sur ce sol aucune plante de l'ancien jardin, car il leur faut une terre cultivée depuis très longtemps, et il n'est pas l'heure encore de prendre la bêche et le râteau, là où la charrue n'a jamais passé. Il faut retrouver chaque article du pacte qui préside à la difficile administration des relations humaines, chaque règle d'une syntaxe secrète et délicate qui ne fut jamais formulée, mais que des siècles d'usage rendirent précise et dure. Elle enseigne à l'enfant comme un second langage qui donne aux mots de l'autre leur sens et leur aloi. Les principes d'hygiène et de politesse, de gastronomie et d'honnêteté, tout se compose et s'appuie. Les préceptes pour l'attelage des animaux, pour la taille des arbres fruitiers, les motifs des dentelles et les points des broderies, les recettes pour la distillation des liqueurs, pour leur mise en bouteille, les conseils sur la façon et sur l'heure de les servir, sur la bonne manière de les boire, l'une d'un coup, l'autre à petits traits, la nécessité d'en faire compliment. Et s'il faut y ajouter de la cannelle, du gingembre ou du sucre, et si c'est du sucre qu'il faut mettre, s'il convient de le déposer au fond du verre, et quelle doit être la forme de celui-ci, ou s'il vaut mieux le faire fondre sur une cuillère ajourée en égouttant sur lui une eau pure, les règles de méfiance de soi-même à l'usage des savants et des historiens, les maximes de la morale, les plus fragiles toujours et qui sont les plus faciles à ne respecter qu'en apparence, les commandements de la délicatesse, qu'il n'est pas rare de voir subsister dans les cœurs révoltés contre tous les autres et qui forment en eux comme un dépôt indélébile. Comment on rend un service, et c'est sans le faire sentir et sans jamais le rappeler. Comment on offre un cadeau, et la façon de donner, on le sait, vaut mieux que ce qu'on donne. Ces menus codes de travail, de civilité et d'étiquette forment la conscience et lui apprennent à résister aux tentations de la grossièreté. En face des avantages qui reviennent naturellement à la violence, à la ruse et à l'argent, ils fondent un autre prestige que ni la brutalité, ni la fraude, ni la richesse ne savent tout à fait réduire. Ils rendent possible toute gloire. Ils permettent l'existence de biens dont ni l'achat ni le mensonge ne peuvent assurer la possession. Et le sort ni la puissance n'en établissent pas davantage la propriété. Ils habitent l'âme et sont justement ceux qui, la rendant ferme et incorruptible, lui confèrent comme une grâce qui la garde au moins de céder à la peur ou à la convoitise. Mais c'est mal s'exprimer peut-être que de dire ainsi qu'ils habitent l'âme. Ils la constituent, car je ne sais ce que désigne ce mot, sinon précisément un pouvoir que l'homme, petit à petit, peut faire mûrir en lui. Un refus qu'il sait toujours mieux opposer à la fureur des monstres qu'il porte, comme aux menaces et aux appâts dont dispose le monde pour l'effrayer ou le séduire. Cette âme, parmi ceux qu'il fréquente, chacun distingue facilement qui la soigne et qui la néglige. Et je ne sais non plus ce qu'on nomme civilisation, sinon l'habitude de rendre hommage à ses trésors invisibles et la finesse de perception qui permet d'en apprécier la qualité. Est-ce l'apanage d'un palais entraîné, d'une ouïe subtile, d'une main qui sait peser ou d'une faculté plus générale de discerner la transparence et l'orient des choses, vertu, perles ou vin? Il n'est pas temps d'établir sur des fondements éprouvés la hiérarchie de telles expertises des sens, de l'intelligence ou du cœur. Pour l'instant, qu'importe où elles sont appliquées, pourvu que ce soit au résultat précieux d'une grande patience. Même si tous les chefs-d'œuvre ne méritent pas également tant de sollicitude, c'est beaucoup déjà qu'aucun ne laisse saisir d'emblée son excellence. Chacun d'eux force un profane à l'étude pour le reproduire ou le goûter, et il n'est pas d'éducation inutile. La discipline qu'aura suivi ce rustre ne l'affinerait-elle que sur un point sans importance, qu'elle accroîtra en lui et à son alentour une sévérité fertile, capable de s'étendre à de plus hautes ambitions. Il est heureux que les perfections éclatantes qu'on constate dans la nature et qui s'y montrent immédiates et définitives ne soient pas le privilège de l'homme. Comme il lui faut beaucoup de soins pour former les siennes, il ne les perçoit pas non plus sans apprentissage. Et il en exige de toujours plus achevées. Celles qui le ravissaient à l'instant et qu'il se félicitait d'avoir réussi le déçoivent aussitôt. Elles ne servent qu'à lui en faire concevoir d'autres qui provoqueront à leur tour plus d'exigences qu'elles n'en auront satisfaites. Il n'est pas au monde de merveilles. Il n'est ni temple, ni joyau, ni science, ni sainteté dont la naissance, fût-elle due à la brusque adresse du génie ou à quelque grâce plus mystérieuse encore, ne vienne enfin récompenser un enfantement séculaire.
Roger Caillois, vous avez consacré un essai aux différents aspects du rêve intitulé « L'incertitude qui vient des rêves ». Ce qui vous intéresse dans les rêves, c'est en effet l'incertitude qu'ils projettent sur la réalité. Ce que vous craignez dans les rêves, ce sont les aspects qui le rapprochent de la réalité. En écrivant cet essai, en exprimant ses craintes, s'il y a crainte, à quel souci avez-vous cédé ?
J'ai cédé à un souci exclusivement logique. Il y a deux problèmes du rêve. Il y a le problème de l'interprétation des rêves et le problème de savoir quel degré de réalité ils ont. Le problème de l'interprétation des rêves et l'affaire de la psychanalyse, il ne m'intéresse pas, enfin il ne m'intéresse pas en ce moment du moins, ce n'est pas celui que j'ai traité dans mon livre, c'est l'autre, c'est-à-dire le degré de réalité qu'il faut donner aux rêves et la possibilité ou non de le distinguer de la réalité. Je n'ai aucune crainte à ce sujet, je suis absolument persuadé que personne n'hésite à distinguer le rêve de la réalité dans la pratique. Mais j'avoue que théoriquement, je n'ai pas trouvé, d'ailleurs beaucoup de philosophes et presque tous les philosophes avant moi, n'ont pas trouvé de raison décisive de les séparer. Et cette incertitude que projettent les rêves sur la réalité tiennent par exemple à la difficulté, je dirais même à l'impossibilité, de distinguer un rêve d'un souvenir, ou le souvenir d'un rêve du souvenir d'un événement vécu. Et bien entendu, un rêve à ce point de vue-là est redoutable dans la mesure où il est indiscernable de la réalité. C'est un aspect du rêve qui, je crois, n'avait pas été souligné, parce que quand on pense rêve, on pense absurdité, contradiction, et on ne pense pas à tous ces rêves que nous rêvons sans cesse et dont nous souvenons, et de façon que nous avons du mal à savoir si les événements dont nous avons souvenir étaient rêvés ou vécus.
À la fin d'un après-midi de novembre, au bas de l'avenue MacMahon, devant les magasins réunis, je m'avisais avec émotion que j'avais le temps de monter chez une amie qui habitait le quartier et qu'il me semblait qu'il y avait des mois que je n'avais vu. Ce serait comme une résurrection de la revoir. Notre longue liaison, que personne n'avait soupçonnée, avait été parfaite, et le secret où nous l'avions maintenue d'un commun accord nous l'avait rendue plus délicieuse encore. Jamais de querelle, de rancune, ni aucune de ces obligations qui finissent par devenir une servitude pénible. Le bonheur, le plaisir, le calme, le plaisir encore. Je me rappelais d'un coup toutes les heures passées ensemble, l'atmosphère et le silence du minuscule appartement, la sollicitude, la discrétion, la douceur de cet ami. Je revoyais la cuisine, dont la fenêtre s'ouvrait sur une cour anormalement étroite, et suspendue au milieu de la pièce, la lampe électrique, avec un abat-jour d'opaline frisé sur les bords. Cette lampe était munie d'un contrepoids de porcelaine qui permettait de la faire descendre à la hauteur souhaitée. Les détails domestiques, si nets, laissaient en même temps transparaître la présence, je devrais dire la rumeur, le foisonnement en tout cas, d'une multitude de plus ardentes images qui, tout indistinctes qu'elles demeuraient, me gonflaient de désir et de tendresse. Je me hâtais vers la maison de mon amie, impatient d'arriver et ne doutant pas qu'elle ne fût chez elle et qu'elle ne m'attendît. Mais je ne reconnus pas l'immeuble. Il y en avait plusieurs qui se ressemblaient fort et je dus entrer dans chacun d'eux pour examiner le couloir et la cage d'ascenseur. Aucun n'était celui que je cherchais et je me retrouvais tout déconcerté dans la rue. Stupéfait, je m'aperçus soudain que j'avais oublié le nom de cette rue, où cependant j'étais si souvent allé, et jusqu'au numéro même de la maison. Un peu effrayé, je me mis à parcourir les rues obliques qui joignent l'avenue des Ternes à l'avenue Niel. Je savais du moins que la rue que je cherchais était l'une de celles-ci. Mais c'était maintenant une sorte de débâcle, de vertige. Les découvertes se succédaient avec une rapidité croissante. Je devais me rendre compte que je ne me souvenais pas non plus du nom de ma compagne, ni de son visage, ni de sa coiffure, ni de ses vêtements. Je le pressentis brusquement. Je ne saurais plus rien d'elle. Ce serait strictement comme si elle n'eût jamais existé. En un clin d'œil, cette étrange amnésie avait atteint tous les souvenirs qui la concernaient à mesure que j'essayais de les évoquer. Où je l'avais rencontrée? Comment elle était devenue ma maîtresse? De quelle façon? Pourquoi nos relations si heureuses s'étaient espacées? Si je dormais à côté d'elle et de quel côté du lit? Si nous descendions ensemble prendre le petit déjeuner et dans quel café? S'il nous arrivait de nous promener? Ou si nous ne nous rencontrions jamais que dans l'intimité d'une chambre? Il suffisait que je me pose une question pour que la réponse m'en fût sur le champ à tout jamais ravie. Tout un pan de ma vie sentimentale et sensuelle, il me semblait que je mesurais alors pour la première fois à sa valeur le cadeau inestimable que m'avait fait la destinée en cette occasion, toute cette saison de félicité qui avait peut-être duré des années entières, s'abîmait dans d'impitoyables ténèbres qui n'en restituerait rien. Le désastre ne laissait émerger que des lambeaux dérisoires d'images anonymes. Une fenêtre ouverte sur une cour exiguë, une table de cuisine couverte de toile cirée sous une ampoule, un abat-jour, un contrepoids. Rien, je m'en rendais compte avec douleur, rien qui pût me mettre sur la trace d'un bonheur désormais perdu. Je n'ai pas le goût d'employer un vocabulaire pathétique, mais je dois dire que j'ai rarement vécu minute aussi poignante que celle-ci, où un stupide accident de la mémoire, que je devinais définitif, me frustrait en un court instant de souvenirs qui auraient toujours été pour moi, quoi qu'il dût m'arriver, une consolation précieuse et vivifiante. En outre, je n'étais pas sans me douter que cette mutilation, si elle avait porté sur des souvenirs honteux ou horribles, en aurait été à peine plus supportable. D'une façon analogue, même celui qui ne veut pas avoir d'enfant n'écoute pas avec joie son médecin lui apprendre qu'il est stérile. Je me réveillais désespéré. À supposer que mon désarroi ait, pour ainsi dire, sécrété mon rêve, comme l'araignée sa toile, il me paraît secondaire pour mon propos d'en rechercher l'origine et la signification. Une fois de plus, là n'est pas le problème principal, mais dans le fait qu'il existe des amnésies de différentes espèces, partielles, rétrogrades que sais-je encore, qui portent sur un ensemble de souvenirs et sur lui seul. La description de ces amnésies cataloguées, qui engloutissent sans merci des souvenirs réels, répond exactement au phénomène qui m'est arrivé en rêve et qui m'a pour un instant convaincu que s'anéantissait en moi, avec tout ce qui la rattachait au reste de ma vie, la plus merveilleuse aventure que j'eusse jamais reçue du sort. Il suit qu'il n'est pas sûr que pour être arrivé en rêve, le naufrage ait eu moins de réalité.
Roger Caillois, dans le récit intitulé Ponce Pilate, vous avez imaginé que Ponce Pilate libère le Christ, que le Christ n'est pas crucifié, qu'il meurt à un âge avancé, qu'il n'y a pas de christianisme. Cette tentative de biographie imaginaire est-elle simplement un divertissement ou bien cache-t-elle une leçon? Dans ce cas, laquelle?
Mais ce n'est pas du tout un divertissement, c'est le problème fondamental qui s'est posé à moi comme sociologue et historien des religions, si vous voulez. Le problème que se pose Pilate est le suivant: est-ce qu'on peut demander aux hommes, au nom des hommes, ce que les religions leur demandent au nom des dieux? Et pour cela, il me fallait imaginer, non pas tellement un Pilate qui libère le Christ, mais un Pilate qui sait que s'il libère le Christ, il n'y aura pas de christianisme. Et ce que Pilate se demande, averti comme il est d'abord par ce texte que j'ai choisi, qui est le monologue que Judas tient devant lui, et surtout par un espèce de voyant chaldéen que j'ai inventé et qui lui raconte, avec toutes sortes de détails que j'ai voulu les plus significatifs possibles, les transformations que le christianisme apportera à l'humanité, eh bien, sachant cela, il préfère tout de même ne rien demander aux dieux, et il préfère que ça soit l'homme tout seul, sans le secours de croyance. Pilate est stoïcien, par conséquent, il ne croit pas aux divinités, mais ce qu'il croit, comme croit le chaldéen dont j'ai parlé, c'est au secours que peut apporter à l'homme la croyance en des divinités. Mais Pilate, qui représente dans cette œuvre le rationalisme absolu, croit que même de cette croyance on peut se passer, et que l'homme doit s'en passer parce qu'elle paye trop cher le fait de faire appel à elle.
Il y a donc un rejet du mysticisme.
Par Pilate, oui, mais pas par d'autres personnages, par exemple, pas par Marduk.
L'homme se leva d'un bond. Il était roux, contrefait et hagard. Sa tunique malpropre et déchirée, son agitation, son débit précipité ne plaidaient guère en sa faveur. Pilate se repentit d'être venu et faillit le faire jeter dehors sans l'entendre. Puis il se ravisa, puisqu'il était descendu. Surtout, il ne voulait pas donner l'impression aux légionnaires qu'il regrettait de s'être dérangé pour écouter un misérable. Une des causes de la faiblesse de Pilate était le respect humain. « Il fallait que je vous avertisse, procurateur. Vous êtes ignorant. Vous ne connaissez pas comme moi les Saintes Écritures. Vous n'avez pas réfléchi sur elles. Comment en auriez-vous l'intelligence ? Même les disciples les plus fervents du Sauveur ne comprennent pas le stratagème nécessaire. Mon nom, qui sera exécré dans les siècles des siècles, ne vous dira rien. C'est celui d'un vagabond que ramasse votre police. C'est aussi celui de l'instrument de la divine providence. Par mon ministère, tout sera accompli. Par mon ministère et par le vôtre, Ponce Pilate, procurateur de Judée. Nous sommes logés à la même enseigne, embarqués sur la même galère. Mais vous n'en savez rien encore, procurateur. Aussi risquez-vous par caprice ou par souci d'équité de tout gâcher et de laisser les peuples de la terre sous le poids de la malédiction originelle. Car vous êtes capable, je le sais, de sauver le Messie, de le préserver du supplice, parce qu'il est innocent. Comme l'imbécile de Simon-Pierre qui a levé le glaive pour le défendre la nuit dernière. Mais lui sait ce qu'il fait. Aussi a-t-il commandé à l'étourdi de rengainer. Il a recollé l'oreille de Malchus. Il sait, lui. C'est moi qui ai désigné le sauveur aux hommes de Caïphe et qui l'ai fait arrêter la nuit comme un criminel, comme un meneur, comme un chef d'émeutier, quand la ville entière venait d'étendre un tapis de palme sous les pas de son âne et quand chacun, les yeux commençant à s'ouvrir, lui baisait la main et le reconnaissait comme le Fils de Dieu. J'ai eu du mal. J'ai dû convaincre les prêtres, le capitaine de la patrouille. J'ai dû faire le cupide, exiger 30 pièces d'argent pour rendre explicable ma trahison en la mettant sur le compte de l'avarice. C'était le meilleur mobile à invoquer pour persuader les avares qu'ils sont. Mais je ne veux pas de leur argent. Une fois accomplie la prétendue trahison, je le leur ai jeté au visage. Je l'avais réclamé seulement pour qu'il me croie et qu'il consente à l'acte indispensable, une arrestation qui ferait du bruit et qui ne permettrait pas de revenir en arrière, qui rendrait impossible qu'on étouffe l'incident et qu'on le transforme en fait divers sans importance. Sans importance. Le salut du monde dépend de la crucifixion du Christ. Qu'il vive, qu'il meure de sa belle mort, de la piqûre d'une vipère à cornes, ou de la peste ou de la gangrène, de n'importe quoi comme tout le monde, c'en est fait de la rédemption. Mais grâce à Judas Iscariote, et grâce à toi, procurateur, il n'en sera rien. Le Fils de l'homme, comme il est dit,
sera crucifié dans l'espace et ses os seront comptés. Le voile du temple sera déchiré du haut en bas et les ténèbres couvriront la terre en plein midi. Dieu meurt pour le rachat des hommes. Il rachète aussi les Juifs qui le haïssent et les Romains qui l'ignorent et leurs fils et les fils de leurs fils. Chaque goutte de son sang rachète chacun d'eux en particulier. Je suis comme toi, procurateur, le ministre du divin sacrifice. Peu importe que tu ne comprennes pas, il suffit que tu ordonnes aujourd'hui de crucifier Jésus comme Caïphe le réclame, et le monde sera sauvé par le trépas volontaire du Fils de Dieu. Car sais-tu qu'il ne faut rien moins que le martyr du Fils de Dieu pour sauver les hommes. On dira que tu fus un lâche et que je fus un traître. Qu'est-ce que cela pèse en face d'un pareil enjeu? Je ne suis pas un indicateur, je ne suis pas un traître. Je suis, comme toi, l'exécuteur de la volonté divine. La volonté de Jésus est que tu le fasses crucifier. Il ne répondra même pas à tes questions lors de la scène hier. Il m'a indiqué avec amour mon rôle et mon privilège. Les autres m'ont aussitôt méprisé. Ils m'ont regardé avec dégoût. Ils souhaitaient donc les criminels, les sacrilèges, empêcher le supplice du maître et ruiner ainsi le sens, l'ampleur, la démesure de son abnégation. Mais moi j'ai compris. J'ai livré le Messie comme s'il était un voleur de nuit. Et toi, tu le feras crucifier, procurateur. Ne va pas par un geste magnanime, ne va pas saboteur de la rédemption de l'homme, ne va pas libérer l'innocent que j'ai livré. Accomplis les Écritures et assure la gloire du Sauveur par l'ignominie des tourments endurés. La mort sur la croix, comprends-tu, garantira le divin message. C'est le paraphe et le sceau qui l'authentifie. Nous sommes les ouvriers indispensables de la rédemption. Il a dit, il faut que le scandale arrive, mais malheur à ceux par qui le scandale arrive. Nous sommes les agents du scandale suprême, ceux qui feront que Dieu souffrira dans une chair d'homme et mourra de la mort des esclaves pour le salut de ses créatures. Je voulais te l'apprendre, car je n'avais pas assez confiance dans ta lâcheté. On n'est jamais sûr de la lâcheté du plus lâche. J'ai redouté de ta part je ne sais quel sursaut de courage. J'ai préféré te mettre au courant. Adieu. C'est fait. Je n'ai plus qu'à me pendre. Tu te pendras peut-être aussi, procurateur, quand les enfants même te montreront du doigt, objet du dégoût général pour t'être lavé les mains du sang du juste. Dès maintenant, nos deux noms sont associés pour l'éternité. Le lâche et le traître. En réalité, le courageux et le loyal par excellence, celui dont la faiblesse était nécessaire, et l'autre, si dévoué qu'il accepta par amour d'être à jamais marqué par le stigmate de la félonie. Tu seras exécré, mais console-toi. Lui sait qu'il n'aurait pas pu racheter les hommes sans ma prétendue traîtrise et sans ta fausse lâcheté. Consent comme moi le sacrifice qui nous donnera le pas sur les plus grands saints. Une crise due au mal interrompit le forcené. Il se roulait par terre l'écume aux lèvres. Pilate fit signe qu'on lui épargna la vue d'un spectacle aussi répugnant. Il essayait cependant de découvrir un sens à la déconcertante apostrophe.
Roger Caillois, dans l'article intitulé « Pierre contre nature » qui clôt cette émission, vous évoquez l'obstination des premiers hommes à élever des pierres énormes dans la nature. Ces pierres constituent les premiers jalons de l'aventure humaine. Quelles leçons faut-il en tirer?
C'est, si vous voulez, un commentaire ou un appendice à mon livre, Le Rocher de Sisyphe, quand vous m'avez demandé qu'est-ce que c'est que la civilisation. Eh bien, ça peut être absurde que d'élever des pierres qui n'ont aucune inscription, qui ne signifient rien, qui ne rappellent rien, et les évoquer en se donnant un mal énorme par des êtres qui viennent, si vous voulez, qui viennent d'arriver à la station debout, et cela au prix de sacrifices, parce que ils renoncent à plus de rapidité dans la course, et ils ont une moindre stabilité, ce qui les met en état d'infériorité vis-à-vis des animaux concurrents, mais tout de même, ils ont choisi d'être debout, parce que ça leur libère des mains avec lesquelles ils pourront faire des outils, et par conséquent, commencer cette aventure humaine. Eh bien, quoi de plus absurde que de mettre debout des pierres énormes, et malgré tout, les efforts qui ont été dépensés pour cela étaient malgré tout des efforts positifs, ce n'était pas le résultat de l'exploit qui comptait, c'était d'entreprendre une tâche difficile, même absurde.
Je suppose, dans l'infinité des mondes, un monde où s'est produit ce premier miracle, la vie. Sur ce monde, parmi les nombreuses espèces qui répètent à chaque génération une destinée immuable, une race industrieuse, avide de modifier la sienne. Je feins qu'elle y soit parvenue, qu'elle dispose de machines, d'énergie domestique, d'écoles, de bibliothèques, de laboratoires, d'usines. J'imagine en outre que ces savants ont patiemment étudié l'habitat commun, qu'ils ont catalogué les métaux et les roches, inventorié les moindres accidents de terrain et, parmi les curiosités du relief, distingué, défini, expliqué les demoiselles coiffées, les cheminées des fées et maintes formes étranges qu'il arrive au caprice de l'érosion de sculpter dans un sol meuble. Je suppose, enfin, que ces êtres qui ont oublié depuis longtemps leur début se prennent un jour, au cours de leur longue histoire, à s'interroger sur d'autres pierres, isolées ou rangées tantôt en cercle, tantôt en interminable fil, et qu'ils découvrent n'avoir pas toujours été ni debout, ni alignés. Je me demande quelles leçons ils devront en tirer. Ces pierres sont énormes et pesantes. Qui plus est, elles sont inégalement réparties, mais largement répandues à la surface du globe. Ainsi, point de hasard ni de fantaisie, mais l'irrésistible d'une nécessité assez banale et puissante pour s'être imposée en chaque circonstance tant soit peu propice. Toutes les faces, sauf une, de ces frustes piliers sont polies par le vent ou le ruissellement des eaux par la douceur de l'usure. Mais le dernier pan présente une cassure demeurée fraîche malgré l'âge. L'intempérie n'a pas eu loisir de caresser et de convaincre cette surface brutale qui n'est pas comme les autres entièrement élusive. En outre, ces blocs reposent au fond d'une cavité sur un lit de cailloux tassés et coincés. Ils ne portent aucune inscription, sans message ni millésime, absolument muets. Ils ne sont que pierres communes, il est vrai, arrachées de leur gîte, transportées, érigées. Ce furent là opérations complexes, où il n'entra pas moins de réflexion que de force. Il est aisé de calculer le travail qui fut chaque fois nécessaire, plus aventureux d'imaginer avec certitude les procédés utilisés. Le contraste de la cendre brûlante et de l'eau froide pour provoquer l'éclatement du roc suivant la ligne désirée, un immense arroi de bœufs ou d'hommes attelés par centaines pour déplacer sur rouleau les masses colossales, les rampes de terre battue construites pour les hisser insensiblement à la hauteur indispensable, puis la périlleuse, la monstrueuse délicatesse de la manœuvre finale qui fait lentement basculer le bloc suspendu en porte-à-faux au-dessus du socle préparé pour le recevoir. Et c'est alors que les ingénieurs entêtés durent apprendre combien retenir les normes est plus difficile encore que l'ébranler. Enfin, le remblai détruit publie au centre d'un pré l'inexplicable et vain prodige d'une haute pierre qui n'aurait pas été verticale sans un effort aussi épuisant, aussi absurde. Nulle entreprise plus extravagante que de mettre debout les pierres les plus longues et les plus lourdes. Rarement tant d'ingéniosité, tant d'énergie furent gaspillées pour un bénéfice de toute évidence métaphorique et déraisonnable. Je soupçonne qu'à l'aberration primitive s'est vite ajouté quelque aveugle surenchère qui conduisit vraisemblablement les auteurs du projet dément à détacher et à dresser des fuseaux de dimensions toujours plus fastueuses, c'est-à-dire consommant plus d'audace et de sueur. Le besoin de faire mieux qu'autrui ou que soi-même, le goût de la prouesse a de profondes racines et il est indépendant de son objet. Au crédit de la folle émulation, il convient sans doute de porter, qui en furent les conséquences, l'invention et l'essai de nouvelles techniques, une économie plus efficace du labeur, l'urgence de recourir à des stratagèmes inédits, tout progrès dont la récompense, cette fois, était rien moins qu'imaginaire, sans compter l'acquis essentiel, l'âcre violence humaine fortifiée en ses vastes prétentions. Les dieux, les forces surnaturelles, les chefs disparus à qui durent être dédiées ces stèles nues, qui dédaignaient d'en perpétuer les noms ou les simulacres, sont en effet effacés du souvenir même, comme sont aujourd'hui presque inconcevables les croyances qui conseillèrent d'édifier des monuments aussi taciturnes. L'intermédiaire théologique rendu à son néant, les voici de leur côté restitués à leur véritable essence d'hommage aux ailes dérisoires et à l'exploit inutile. Les signes abondent au contraire sous les allées couvertes et les tables géantes, à l'intérieur des massives sépultures de même âge et de même style. Ils y sont peu clairs et cachés. Il faut beaucoup de lumière pour les distinguer et plus encore d'imagination pour les interpréter. La plupart du temps, leur sens échappe ou demeure incertain, tels les courbes concentriques, les méandres parallèles qui, à Gavrini, paraissent dans leur puissant relief la formidable empreinte laissée à l'aurore des temps sur la roche en train de refroidir par le pouce d'un démiurge distrait. Sur les pierres debout, nul symbole, même rudimentaire, n'est en général gravé, comme si elles étaient non seulement d'avant l'écriture, mais d'avant le dessin, ou comme si les ouvriers qui les ont érigées avaient choisi de n'y rien figurer. Signes eux-mêmes, ces blocs semblent exempts d'emporter. Je songe qu'ils n'avaient peut-être mission que de rappeler et d'illustrer le paradoxe d'un quadrupède vertical. Ils exaltent l'idée et le vouloir d'une espèce encore ivre de s'être redressée et d'avoir à ce prix moins d'équilibre dans la station, moins de rapidité dans la course, libéré pour des tâches encore insoupçonnables ce qui déjà était devenu des bras et des mains. La première entreprise fut alors de mettre debout, elles aussi, en gloire et pour mémoire, d'éternelles bornes silencieuses, sans symbole ni devise, mais qui ne prenaient pas moins possession de la planète, comme marque d'éleveur sur la robe des animaux de ferme. Les siècles ont passé. Les descendants lointains des constructeurs démunis disposent d'un pouvoir quasi limité. Ils peuvent lire dans ces pierres, rien que pierres mises à l'aplomb du sol, que leur science déconcertée désigne d'un terme grec, le premier témoignage d'une ambition obscure, la leur, aussi démesurée, aussi mal dégrossie et aussi solitaire qu'elle. Et ils admirent que des stèles difformes inaugurent l'histoire entière de leur espèce.
La radiodiffusion française vient de vous présenter Morceaux choisis. aujourd'hui, Roger Caillois, page choisie par l'auteur et présentée par Jean Paget, avec R.J. Chauffard, René Farabet et Claude Martin, chef opérateur du son Marcel Ostalier, collaboration technique Jean-Marcel Laurence, assistante Nicole Vuillaume, réalisation Georges Gravier.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 8 février 1964. Vous pouvez la réécouter en ligne et la podcaster sur le site de France Culture, franceculture.fr, à la page des nuits et sur l'application Radio France.